Suivez Priorité Santé avec les sociétés Sunwa Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Sunwa Assurance. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Les personnes âgées ont été désignées dès le début de l'épidémie de coronavirus comme vulnérables, c'est-à-dire davantage susceptibles de développer des formes graves du Covid-19. En France, les personnes décédées du coronavirus avaient en moyenne 84 ans et 90% d'entre elles avaient 65 ans et plus. Au printemps, alors que l'épidémie atteignait son pic en termes de mortalité, de très strictes mesures d'encadrement des visites et des contacts avaient été instituées au sein des structures d'hébergement de personnes âgées. Aujourd'hui, alors que l'épidémie de Covid a repris, Priorité Santé vous propose un double regard pour essayer de comprendre comment cette rentrée est vécue dans les structures sanitaires qui prennent en charge les aînés, percevoir l'impact physique, psychologique pour ces patients âgés, ce que cela implique aussi pour les équipes soignantes et les familles. Une émission au cours de laquelle nous regarderons également en arrière, retour sur cette période très dure, mars-avril, mai dernier, avec un reportage à la rencontre de l'équipe d'un EHPAD à Corbras, dans la région de Lyon. Les personnels avaient alors choisi de se confiner avec leurs résidents afin de les protéger. Rencontre que va nous proposer dans une minute Charlie Dupiot. Et un reportage que nous allons écouter ensemble, si vous le voulez bien. Docteur Frédéric Béard, bonjour.
Bonjour Caroline Paré.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes gériatre nutritionniste, chef de service à l'hôpital Dupuytren Draveil, assistance publique hôpitaux de Paris dans l'unité de soins de suite réadaptation, soins de longue durée, soins palliatifs. Et vous êtes également, docteur Béard, président de la commission gériatrique du comité de liaison alimentation-nutrition, toujours à Draveil, dans l'Essonne. Au cours de la période très particulière du confinement, docteur Béard, eh bien, on vous avait invité à plusieurs reprises dans l'émission pour expliquer comment ça se passait, ces soins presque à huis clos, les portes fermées, privation de lien avec l'extérieur, de visite. On va dire de lien physique, mais pas de lien tout court, c'est très important de le souligner. Situation inédite dans l'histoire sanitaire. Et il y a encore une dizaine de jours, le président du conseil scientifique, le professeur Delfraissier, a expliqué que la population, que plusieurs populations étaient dans sa ligne de mire. Il y a les plus de 60 ans, hein, cible du virus, avec les populations fragiles. Aussi les 20-40 ans. Alors on parle bien sûr des conséquences sur la santé, mais est-ce que pour vous, le Covid-19, c'est avant tout une maladie qui sépare les générations, où on réussit à faire en sorte d'éviter ce clivage ?
La question est un peu difficile, puisque les maladies sont bien évidemment très variables en fonction des âges, et donc c'est bien pour ça qu'il y a des gériatres et que donc on est spécifique de certaines maladies du grand âge. Il n'empêche qu'effectivement le Covid touche particulièrement les patients âgés qui ont des comorbidités, donc c'est vrai qu'il y a un taux de mortalité nettement plus important. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le comportement des jeunes adultes de 20, 40 voire 60 ans, on va dire, influe sur la transmission du virus, et que j'ai presque envie de dire que c'est les patients âgés de plus de 65-85 ans qui en payent le plus lourd tribut. Donc quelque part, il y a une sorte de solidarité générationnelle intéressante à vérifier. L'autre chose, effectivement, c'est qu'on a des patients âgés qui sont bien évidemment beaucoup plus touchés, qui sont séparés de la population. Il y a une tentation de faire un peu d'agisme, c'est-à-dire d'exclure, alors que tout ce qu'on voudrait, c'est que dans notre société, les patients âgés, les personnes âgées, les vieillissants, puissent prendre toute leur place. Il y a beaucoup d'expériences, beaucoup d'affectifs, beaucoup de tendresse, beaucoup de choses à partager, et on les exclut un petit peu en essayant de les mettre sous cloche pour les protéger. Et c'est une vraie question éthique. Est-ce qu'il faut protéger les gens contre leur volonté, contre leur liberté, ou est-ce qu'il faut essayer d'allier un petit peu les deux ?
Il y a même des déclarations qui mettent en garde contre l'infantilisation d'une certaine manière, comme si les personnes âgées n'étaient pas responsables aussi d'une certaine manière de leur santé. En tout cas, ce que j'aime bien quand on parle avec un gériatre, c'est qu'on est jeune jusqu'à 60 ans. Alors, le risque sanitaire, il est bien là. Hein. On le voit, il y a des informations qui circulent. Ce matin, je suis allée sur le fil de l'agence France Presse, et il y a la liste justement des EHPAD aujourd'hui qui sont concernés, hein, ces établissements d'accueil pour personnes âgées dépendantes, souvent vulnérables. à Roanne, dans une résidence, 40 cas positifs, 9 décès, 12 décès dans une maison de retraite de Bourg-en-Bresse, là aussi dans le centre de la France, une cinquantaine de cas dans un autre établissement de la ville de Bourges. Comment vous voyez cette situation ?
Ce qu'on sait, c'est que les chiffres commencent à frémir un petit peu depuis deux semaines, que les tendances sont pas forcément très rassurantes, qu'il semblerait que les courbes soient presque superposables à celles de mars.
Je vais éviter le sensationnalisme parce qu'il y en a vraiment eu trop pendant cette crise sanitaire, mais votre sentiment, c'est quand même de l'inquiétude ?
Clairement, c'est de la vigilance et teinté d'un petit peu d'inquiétude. Maintenant, il y a aussi une autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'on est un tout petit peu plus préparé, qu'on sait un tout petit peu plus à quoi s'attendre, même s'il y a beaucoup d'imprévisibles et qu'on ne sait jamais exactement ce qui va se passer, on a quand même un petit peu plus de tendance. Et puis, on a eu un petit peu plus de temps pour se préparer et pour se réorganiser. C'est vrai qu'en mars, on s'était réorganisé dans l'improvisation la plus totale et que on sait maintenant, là, depuis une semaine, nous, on a rouvert une unité dédiée dans l'hôpital. On se met un petit peu plus en ordre de bataille, peut-être quelques jours avant.
Et c'est un signe quand même, hein. On rouvre, ça y est, à nouveau ces services qui avaient fermé au début des vacances d'été, hein, avec le recul après le confinement. On avait fermé, on va dire, vers le mois de juillet, début juillet.
De mémoire, elles ont dû fermer fin juin, début juillet.
Fin juin, début juillet, et on commence à rouvrir à la mi-septembre, avec déjà, dans certaines structures hospitalières, un taux d'occupation très conséquent des lits dédiés au Covid. Docteur Béard, un reportage, hein, pendant une vingtaine de minutes environ. On va quitter Paris en compagnie de notre reporter. On va se retrouver tout à l'heure, bien évidemment. Je vous demanderai alors de réagir à ce reportage signé Charlie Dupiau.
Priorité santé sur RFI.
Charlie Dupiau, bonjour.
Bonjour.
Je le disais tout à l'heure en début d'émission, reprise de l'épidémie en France, dans d'autres pays du monde également, notamment en Espagne, avec à la clé de nouvelles restrictions de contact et une question toujours d'actualité, comment protéger nos aînés sans entraver leur liberté ? Comment éviter les conséquences néfastes d'un isolement en chambre et le syndrome de glissement, on en reparlera. Charlie, alors un EHPAD avait pris pendant ce confinement une initiative radicale, confinement total de mars jusqu'à mai dernier. Le personnel s'était en quelque sorte cloîtré avec les résidents. Ça a duré 47 jours consécutifs. L'objectif, empêcher des contaminations, mais aussi permettre à chacun d'aller et venir dans les couloirs. Cette maison de retraite, eh bien, c'est celle de Corba, près de Lyon. L'EHPAD Villanova.
Oui, un EHPAD flambant neuf, ouvert en 2018. Il est géré par une association et il accueille une centaine de résidents. Comme la plupart des EHPAD, il a d'abord interdit les visites des familles à compter du 6 mars. Jusqu'ici, rien de très original. Ça a été le cas dans toutes les maisons de retraite françaises. Mais dès le 17 mars, l'établissement Villanova a commencé à faire parler de lui, puisqu'une partie du personnel a fait le choix, sur la base du volontariat, de se confiner avec les résidents. La directrice de l'établissement, Valérie Martin, nous guide à travers les lieux, devenus alors des lieux de vie collective pour plus de 130 personnes, 24 heures sur 24.
Voilà, ce sont les vestiaires qui ont été utilisés par une partie des confinés. Et c'était nos douches. Donc on avait quand même le confort d'une douche de piscine sans la piscine. Il y a d'autres vestiaires aussi.
Là, on est dans la cuisine du personnel.
Oui, dans la salle de restaurant du personnel. Donc, on prenait nos petits déjeuners ici, nos repas de midi et le fameux dîner. Donc, on allait souvent dehors aussi, ce qui était très agréable.
Là, oui, c'est une terrasse qui donne sur des champs. Oui. On a une belle vue depuis l'EHPAD.
Et puis donc, les premiers jours, on s'était dit, on va se faire un peu de sport, etc. Très, très motivé, hein, n'est-ce pas ? Pour faire le tour du jardin, notamment, en courant, ou voilà. Et puis finalement, on l'a fait deux fois. Et puis on a arrêté dans la mesure où on courait suffisamment dans la maison.
Ça va ?
Bonjour, bonjour.
C'est le repas de midi ?
Voilà.
Alors là, près de la salle à manger, on a un grand tableau sur lequel il y a écrit la date, donc là jeudi 18 juin,
un soleil. Et en fait, vous, pendant le confinement, vous avez très souvent écrit sur ce tableau, tous les jours.
Oui. Alors, sur ce tableau, sur le petit pan de mur, je comptais le nombre de jours où les visites des résidents étaient suspendues et les jours aussi du confinement. Voilà, j'écrivais tous les matins, 21 jours avec vous, donc au niveau du confinement, ou et 33 jours sans vos familles. Enfin voilà, c'était important qu'on ait cette notion de date toujours actualisée.
Et là, donc, il y a écrit « Villanova continue à reprendre sa vie d'avant confinement. Aujourd'hui, la chorale reprend. »
Donc voilà, ça c'est quelque chose qui perdure depuis le confinement.
Il y a de la musique dans les couloirs.
Toujours, toujours. Ce qui nous a permis aussi de chanter. On chante beaucoup ici. Voilà. Donc là, la grande salle, c'est une salle de conférence qui avait été aménagée. Donc dans cet espace de 70 mètres carrés, elles étaient que trois à dormir.
Ah, c'était une chambre.
Voilà, c'était une chambre.
Pendant le confinement.
Donc, le matelas par terre.
Vous avez réussi à trouver des places pour tout le monde, pour que tout le monde puisse dormir.
Oui. Ensuite... Donc là, c'était ma chambre, parce que j'ai dormi donc 30 jours dans mon bureau, matelas par terre.
Et là, chambre 15,
voilà.
Qui est une vraie chambre pour un résident.
Voilà, voilà. C'était chez moi pendant 11, même plus, 17 nuits. Donc une dame a bien voulu me prêter sa chambre.
Une résidente.
Une résidente, parce que c'est cette chambre que je voulais, puisqu'elle était proche du bureau, etc. Et finalement, donc, elle est restée à l'étage, ouais, puisqu'elle est à côté de sa copine.
Je vous mets dans votre chambre, alors, enfin, vers la chambre.
Ah non,
vous voulez rester là.
Je n'habite pas là.
Si, vous avez une chambre ici.
Oui, oui, je n'habite pas là.
D'accord. Qu'est-ce qu'on fait ?
On remonte ? Non, non, je ne veux pas aller dans ma chambre, je veux aller dans ma maison.
D'accord.
Dans mon appartement.
Dans votre appartement. Mais vous savez que pour le moment, vous habitez ici avec nous.
Ah oui, non, mais j'habite pas avec vous, moi.
Combien de résidents vous avez en tout ?
On a 108 personnes.
Valérie Martin, vous êtes la directrice de cette EHPAD Villanova à Corba. En banlieue de Lyon, dans le sud de la France. Et vous avez pris la décision, le 14 mars dernier, d'un confinement total de votre personnel, qui était volontaire, avec les résidents. Comment ça vous est venu ?
Pour moi, c'était inconcevable qu'une personne de 90 ans soit confinée dans 20 mètres carrés. Donc il fallait que je trouve une solution pour préserver sa liberté de mouvement, peut-être au détriment de la mienne. Et c'est là où, comme un déclic, en disant, oui, c'est ça la solution. Et en même temps, tu enfermes Villanova pour éviter que le Covid ne rentre. Et pour ça, il faudrait demander au personnel s'ils seraient partants pour vivre cette aventure loin de chez eux. Pour être confinés pendant un certain temps, donc 15 jours peut-être renouvelables une fois, on verrait en fonction de l'état sanitaire extérieur et surtout du nôtre. Tout en sachant qu'ils avaient effectivement la liberté de sortir, au bout d'un jour, deux jours, ou ben voilà. Par contre, s'ils sortaient, ils avaient l'interdiction de revenir. Ou au bout de 15 jours, pour voir s'il n'y avait pas justement les signes de Covid chez eux. Voilà, pour s'assurer de ça. Donc, on a passé tout le lundi à téléphoner aux 50 titulaires, ou aux CDD longs, ou des personnes qu'on connaît, etc. Et sur ces 50 appels, 29 personnes ont répondu présents. Donc le mardi, toutes les personnes qui ont fait le choix d'être confinées n'ont pas travaillé. Donc là aussi, c'était une journée très très particulière, parce qu'à partir du mardi, donc 17 à midi, la France était confinée. Tout le matin, on a fait nos courses, on a fait le ménage, on a rempli le frigo, on a fait en sorte de laisser une maison propre, mais toute, hein, c'était assez rigolo. Et le mercredi, donc 18 à 6h45, on est arrivé ici avec nos coussins, nos valises, J'ai fermé la porte et voilà, on a commencé notre confinement à cette heure-ci.
Vous êtes volontairement enfermé.
On avait deux objectifs, qu'il n'y ait pas de Covid et qu'ils ne soient pas enfermés, eux, à 90 ans dans leur chambre.
Vous avez été le premier EHPAD à prendre cette décision-là du confinement total. Il y en a eu d'autres en France, mais il y avait un risque, c'était que si jamais l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous était contaminé, avait le Covid, voilà, il y avait ce risque-là de le propager dans tous les EHPAD.
Oui. Donc ce risque nous a habités pendant très très longtemps, même je crois qu'il ne nous a jamais quittés. Les 15 premiers jours ont été très difficiles. Tout simplement parce qu'on ne savait pas si on avait le Covid. Et à cette époque-là, on disait qu'il y avait cette notion de 14 jours où tout pouvait se déclencher.
Alors c'est une décision qui a pu être contestée par d'autres directeurs ou directrices d'EHPAD qui disaient que cela pouvait contribuer à l'épuisement professionnel des salariés. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça ?
L'épuisement professionnel, oui, certainement. Mais c'est tellement fort dans les relations humaines, tellement riche avec les résidents, si on ne se ressource pas avec ces nouveaux liens, oui, on peut être épuisé, c'est clair. Donc la journée de travail, oui, elle commençait à 7h, elle finissait à 20h30, on avait des temps de pause quand même, hein, voilà. Oui, l'épuisement physique est là, mais on n'a pas eu d'accident de travail, on n'a pas eu de risques psychosociaux, rien. Pour ma part, moi, je prenais le petit déjeuner, enfin, mon café, je le prenais aussi avec les résidents, donc avec ma traditionnelle robe de chambre violette, voilà.
En robe de chambre, vous étiez ?
Oui. Ouais, ouais. J'étais en robe de chambre avec les résidents, qui eux aussi étaient en robe de chambre. Donc, on me demande encore si je vais revenir avec ma robe de chambre. Mais surtout, ce qu'on a fait, on a pris le temps individuellement. Et ça, c'est quelque chose de génial. Rien que le fait de s'asseoir sur un fauteuil à côté des résidents, discuter, c'est quelque chose qui me manque maintenant, vraiment.
Et quelques autres EHPAD en France se sont engagés dans un confinement total. Ça a été le cas, Charlie, dans deux établissements de Charente.
Oui, mais l'expérience est vite arrêtée dans ces deux EHPAD après 3 semaines. L'ARS Nouvelle-Aquitaine, l'agence régionale de santé qui administrait ces deux EHPAD, s'est dite opposée à ce type de confinement total et durable en évoquant des risques majeurs pour, je cite, un bénéfice non démontré. Ce confinement a aussi été critiqué par plusieurs syndicats qui craignaient pour le respect du droit du travail. La CFDT, par exemple, a dénoncé une fausse bonne idée, demandant une implication énorme du salarié. Et pour d'autres observateurs du secteur, cette solution était néanmoins pertinente pour protéger les résidents et souder les équipes. L'EHPAD Villanova a en tout cas été le seul établissement en France à vivre un confinement total pendant 47 jours.
Et 29 salariés sur 50 se sont confinés pendant les 15 premiers jours. Alors Charlie, qu'est-ce qu'il est arrivé aux autres salariés, eux qui avaient fait le choix de rester chez eux ?
Alors, certains infirmiers, certains aides-soignants ne pouvaient pas être confinés car ils devaient garder leurs enfants. D'autres ne se sentaient pas l'envie de vivre en collectif, les uns sur les autres. Toutes celles et ceux qui, parmi le personnel, ont fait le choix de rester chez eux, ont continué de toucher leur salaire. Ils constituaient aussi une réserve, au cas où. En tout cas, 2 semaines après le début de ce confinement total, 7 salariés ont préféré rentrer chez eux et il a fallu les remplacer. L'établissement est resté totalement confiné jusqu'au 4 mai, soit 1 semaine avant le déconfinement en France. Et l'équipe a dès le début été submergée par les appels des familles, 80 par jour au moins. Alors très vite, la directrice a créé une page Facebook du nom de l'EHPAD de Villanova pour donner des nouvelles aux familles, partager des vidéos, des photos des activités organisées, des lotos, des crêpes parties, des anniversaires. Une page qui est suivie par 1300 personnes encore aujourd'hui. On y lit des messages d'encouragement comme « Très contente que ma maman se trouve dans votre établissement » ou bien « Je me dis que vous êtes un modèle pour notre société ». Ce confinement, en tout cas, était très féminin, puisque sur 108 résidents, il y avait 10 d'hommes. Parmi le personnel, il y avait seulement 5 hommes les 2 premières semaines, et puis plus qu'un seul pour la suite. Alors depuis le déconfinement, les animations ont repris de manière plus régulière dans la salle commune. Nicole, l'animatrice, est de retour, et certains résidents sont un peu en retard.
Si vous voulez venir vous asseoir, hein ?
Un résident qui arrive... après tout ce qui est prévu. Donc, monsieur Poulet. Bonjour. Allez-y, oui.
C'est pour vous. Nous sommes en train de lire un petit article sur le démontage de l'horloge Charvet à Lyon 2e. Oui. Oui.
Ah, l'horloge, non.
Dans le 2e arrondissement.
Parce qu'elle est ancienne.
Elle est très ancienne, hein.
Je crois qu'elle est très ancienne.
Alors, on y va. Alors, la célèbre horloge de Guignol, installée depuis la fin du 19e siècle, rue de la Poulaillerie, a été démontée mercredi pour être restaurée.
Bonjour, madame.
Bonjour.
Donc là, l'animation est terminée, l'animation lecture, ça vous a plu ?
Oui.
Comment vous vous appelez ?
Moi, je m'appelle Paulette Gaillard.
À quel âge vous avez, si ce n'est pas indiscret ?
Ben, c'est-à-dire que je suis de 1900... Et chaque fois, c'est le même machin.
Vous ne vous souvenez plus de l'année de naissance ?
Ben, ça ne vient pas, hein ?
Non, ça ne vient pas.
Je suis de 1937, alors voilà.
Donc ça veut dire que vous avez 83 ans. Comment ça s'est passé, le confinement, ici ?
Ça a été, hein. Ça s'est bien passé, parce que tout le monde est gentil.
Et vous avez eu peur, vous, de ce coronavirus ?
Bah, en définitive, moi, je suis pas... j'ai pas peur. Donc, j'ai laissé passer, comme si ça n'existait pas. Si ça doit m'arriver, je sais qu'à mon âge, s'il y a une tuile, ben on la prend, hein.
Et qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous pendant cette période un peu étrange qu'on a vécue ces derniers mois ?
D'être un peu séparée de ma famille, parce que ma sœur et mon frère étaient dans le midi, d'en bas, et moi, de ce côté, je ne voyais pas mon fils, qui est sur Corbin, et voilà.
Qui est dans la ville et qui ne pouvait pas venir ?
Ben non.
Et vous l'avez revu depuis ?
Ben oui, mais bon, ça ne dure pas, hein.
Voilà.
Merci.
De rien, c'est moi. Hop, je vais juste lui reprendre son petit déambulateur, pardon.
Hop. Vous sortez de chez le coiffeur, là ? De chez la coiffeuse ?
Pour que j'ai les cheveux propres.
Voilà. Hop.
Et merci.
Tac.
Ça y est.
Comment vous vous appelez ?
Villard Claudia. J'ai eu 98 ans le 13 avril.
Vous avez l'air en forme ?
Avec un peu de volonté.
Alors là, on vient de vivre une période assez particulière avec ce coronavirus, ce confinement. Comment vous l'avez vécu, vous, cette période-là ?
Je vous dirais que j'ai eu beaucoup de chance.
Est-ce que vous vous êtes rendu compte, par exemple, que le personnel, elles se sont confinées avec vous ? Elles sont restées avec vous ?
Oui, je savais qu'elles dormaient là, puisque c'est pour notre bien. C'est à cause de la contagion qu'on avait avec l'extérieur, hein. Moi, je voyais personne de ma famille non plus. J'avais des coups de téléphone, ça oui, mais j'avais revu personne. Mais on était vraiment, je trouve qu'on était vraiment en famille, hein. Ils ont été vraiment gentils, hein. Et on vivait tout ensemble. Et il y en a qui s'attachaient à vous, qui faisaient attention à vous, qui essayaient de vous consoler parce qu'on était comme ça. Elle me disait bonjour le matin. Et puis le soir, on s'en allait, elle me disait, ben je vais me coucher, c'est fini. Ça fait voir qu'on pense à vous. Elle souffrait de ne pas rentrer chez eux. Nous, on souffrait de ne pas voir notre famille. On est toutes pareilles.
On était pareilles, hein, parole de cette résidente Claudia, qui décrit une forme d'égalité entre résidents et personnel, Charlie, et un lien en tout cas renoué en profondeur.
Oui, malgré les renoncements que cela signifiait pour les membres du personnel qui ne pouvaient plus voir leurs proches, Laura a 24 ans, elle travaille comme aide-soignante dans cette EHPAD, donc elle s'occupe des actes de la vie quotidienne des résidents, elle les aide pour leur toilette, pour la prise des repas, elle leur fait la lecture, elle bavarde avec eux. Elle nous raconte cette décision de se confiner, une évidence pour elle. Eh ben moi, donc au moment où on s'est confiné, mon fils avait 10 mois. Voilà, donc du coup, sacrifice personnel, j'ai laissé mon enfant avec son papa, donc il était entre deux bonnes mains. Mais du coup, j'ai quand même loupé 47 jours de son évolution. Donc c'est vrai, ouais, c'était le cœur lourd que je suis partie en confinement. Parce que je me suis dit, est-ce qu'il va commencer à marcher pendant que je suis confinée ? Est-ce que je vais pas louper beaucoup de choses ? Est-ce qu'il va pas m'en vouloir ? Donc après, c'est vrai que j'ai pas pris la décision toute seule, j'en ai quand même parlé à mon conjoint, puisque faut s'occuper du petit. Mais il m'a dit, vas-y, puisque dans tous les cas, si t'y vas pas... Tu vas râler, tu vas te demander comment vont faire tes collègues, tout ça. Donc, ça coulait de sens que je vienne, quoi. Et pourquoi, alors, vous avez pris cette décision ?
de vous confiner?
Ben, parce que je suis soignante, voilà, je suis soignante, c'était quand même, c'était aussi une façon de protéger les résidents pour éviter que moi je puisse apporter le virus, et aussi me protéger moi pour éviter que j'attrape le virus au sein de l'établissement et que je le donne aussi à ma famille.
Et votre mari travaille ?
Oui, mon mari travaille, il est cheminot à la SNCF, donc du coup il a été en chômage pour garde d'enfant, puisque moi j'étais ici 24 heures sur 24. J'en aurais parlé tous les jours, voilà. J'aurais pensé à mes collègues, pensé aux résidents. Je m'en serais voulu de pas être venue. Enfin voilà, je suis soignante, donc je devais venir. Je devais y aller, quoi. C'est un devoir.
Comment vous communiquiez avec votre mari et votre fils ?
Alors, on s'envoyait beaucoup de vidéos dans la journée. On s'appelait aussi. Par exemple, le matin au réveil, l'après-midi quand ils jouaient. Moi, j'étais vraiment partie dans l'optique de rester 45 jours. Ce que j'avais dit à mon conjoint, compte même toi 45 jours. Et puis... Ne crois pas que dans 2 semaines, je vais être à la maison.
Qu'est-ce qui a été le plus réjouissant pendant ce confinement ?
Le plus réjouissant, le soir, quand on se retrouvait toutes. Après les longues journées, quand on partageait le repas, l'apéro. Voilà, tous ces petits moments-là où, en fait, on a vraiment appris à se connaître. Parce que c'est vrai que quand on travaille, on n'a pas le même lien que le soir, quand on est tous autour d'un repas. Et
vous, ça vous a fait quoi de revenir ?
Moi, très bizarre. Je suis partie le dimanche soir. Donc après, on a fait un grand repas, un grand barbecue, donc je suis partie après. Très bizarre, du coup, le lundi matin, je voulais même retourner ici pour moi boire un café avec mes collègues. En fait, elle me manquait. Voilà, tout ce petit quotidien qu'on s'était créé ici, tout me manquait. Le plus difficile pendant cette période, c'était quand on avait des fins de vie. Et du coup, les visites auprès des familles n'étaient pas autorisées.
Il y a eu plusieurs décès pendant le confinement ?
Il me semble 2 ou 3. 2 ou 3 décès, ouais. Donc on appelait les familles, on laissait le téléphone pour que les familles puissent parler à leurs parents. On ne sait pas si la personne entendait ou pas, mais pour qu'il y ait quand même un lien, ou qu'il soit dit ce qui n'a pas pu être dit dans toute la vie, parce que souvent il y a des non-dits dans les familles. Donc voilà, c'était des choses qu'on a quand même pu laisser aux familles. En temps normal, les familles, quand c'est des personnes qui sont en soins palliatifs, elles peuvent dormir ici si elles le désirent, elles peuvent rester 24 heures sur 24 ici si elles désirent rester proches de son parrain en ce moment-là, quoi, c'est important. Mais en EHPAD, voilà, on crée un lien. C'est vrai qu'on les voit tous les jours. Et il faut dire ce qu'il y a, c'est que l'EHPAD, c'est leur dernière maison. On sait qu'ils sont là parce que voilà, c'est leur dernière demeure. Je suis fière de ce que j'ai fait. Je suis fière du métier que je fais. 47 jours, 24 heures sur 24 au sein de son travail. Après, on ne travaillait pas 24 heures sur 24, hein, mais il y a de quoi être fière. Je pense. En tout cas, moi, je le suis.
Fierté et dévouement pour ce personnel de l'EHPAD Villanova à Corba près de Lyon qui s'est confiné sur la base du volontariat avec ses résidents.
Et l'EHPAD compte une unité réservée aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. On l'appelle l'allée des Lys. Elle accueille 10 de résidents et est sécurisée par un badge pour éviter des sorties intempestives. Béatrice et Josiane sont assistantes de soins en gérontologie. Une spécialité pour accompagner les patients Alzheimer et en démence. Elles nous racontent leur choix de se confiner, même si l'une des deux a choisi d'écourter l'aventure.
Toutes les deux, je pense qu'on s'est confinés pour la même raison, parce qu'on a des enfants. On n'avait pas d'enfants en bas âge, on a des enfants adultes qui vivent leur vie. Donc on s'est dit, c'est vrai que moi je me suis proposée, je me suis dit je préfère me confiner à la place des mères qui ont des enfants en bas âge, quoi.
Après moi j'ai fait que 15 jours, hein, donc voilà. 15 jours ça m'a suffi. Je pense que c'était, voilà, c'est ce qu'il fallait. Puis oui, on se levait à 6h, on commençait à 7h jusqu'à 20h30 tous les jours. Pas beaucoup de repos, donc après je me suis dit qu'il y avait quand même encore l'été à suivre et j'ai pensé aussi à l'avenir aussi. Je me suis dit que c'était pas peut-être la peine de s'user, mais j'étais très contente de vivre ces 15 jours.
Et vous avez poursuivi alors, Béatrice ?
Moi j'ai poursuivi, oui. Enfin, j'ai poursuivi parce que je me disais, ça continue, il faut que j'aille jusqu'au bout, quoi.
Une résidente qui est à côté de nous, qui s'assoit à côté de nous.
J'aurais jamais cru que j'aurais pu supporter une telle fatigue. On avait un jour de repos par semaine. Ça a été très fatigant, mais j'ai surmonté cette fatigue. Mais je ne sais pas comment, en fait. On l'a fait en faisant bien notre travail, quoi.
Pensez déjà à nos résidents, un peu, nous, c'était déjà dur de savoir qu'on était confinés, qu'on rentrait pas voir notre famille. Donc, on se mettait à la place des résidents qui, déjà dans notre unité, eh ben, ils comprenaient pas vraiment pourquoi plus personne venait les voir. Ils se posaient beaucoup de questions, on avait beau leur expliquer. Mais nous, on voyait, on savait ce qui se passait, eux, non, en fait.
Ils vous ont dit des choses qui vous ont marqué, certains?
Ben oui, parce qu'il y en a qui disaient que, ben, que les enfants les avaient peut-être abandonnés, ils les voyaient plus.
Dans cette unité-là
Parce que nous, ils ne regardent pas la télé, ils ne restent pas devant la télé. Ouais. Comme en haut, les résidents peuvent regarder la télé, entendre, comprennent. Ici, non.
Ici, il faut déconnecter.
Ils sont, voilà, ils sont Alzheimer et il fallait répéter tous les jours.
Mais bon, on essayait de leur expliquer pour qu'ils comprennent. Et ça, c'était toute la journée, on leur répétait la même chose.
Vous leur parliez du coronavirus?
Virus, déjà, pour eux, ça ne veut pas dire grand-chose, quoi.
Donc
on leur disait pas virus, on leur disait maladie. Qu'il y avait une maladie, il y avait une épidémie de maladie en ce moment à l'extérieur et qu'il fallait pas qu'elle rentre dans l'établissement. En fait, on partait comme ça, on leur disait ça en fait. Je leur disais que même nous, eh ben, on rentrait pas à la maison, qu'on restait ici. Ils se laissaient un petit peu aller. Il y a des jours où ils avaient plus envie de manger, ils mangeaient pas, ils étaient tristes, on le voyait. On voyait qu'ils étaient dans leur coin, ils attendaient, on voyait que ça tournait dans leur tête. Comme on savait qu'on était là, on prenait plus le temps de discuter avec eux parce qu'on savait que le soir, on rentrait pas à la maison, il y avait rien qui nous attendait. Si on faisait 10 minutes, un quart d'heure, parce qu'il fallait discuter avec un résident, et ben on le faisait. C'est parce ça, qu'on savait, différence. On se disait pas que, ah ben hop, 8h30, on a fini le poste, ouais, on s'en va. Là, on savait que même si on finissait à 9h moins quart, on bougeait pas, on était là.
On rentrait pas chez nous.
Donc ça aussi, c'était très important. Pour eux, c'était nous leur repère en fait.
Alors comment continuer à maintenir ce lien sans être là, sans être présent 24 heures sur 24? Comment garder les bénéfices de cette aventure difficile, hein, fatigante pour de nombreux salariés, Charlie?
Des questions posées par ce type d'expérience. Alors depuis le 10 septembre dernier, un cas de Covid asymptomatique a été détecté sur un membre du personnel. Il faut donc désormais appliquer les recommandations sanitaires. La maison de retraite a été fermée au public et les résidents sont confinés en chambre, ce qui n'avait pas été le cas jusque-là, jusqu'au retour des 160 tests réalisés auprès des résidents et du personnel. Alors la directrice de l'EHPAD continue d'alimenter la page Facebook de l'établissement. Elle donne des nouvelles tous les jours, se veut rassurante. Elle écrit par exemple « Les services des repas en chambre sont rodés. Chacun apprécie son plateau. L'appétit ne faiblit pas. Malgré ce contexte particulier, tout va bien. » Voilà, on attend de voir. Pour l'instant, les tests qui sont déjà revenus sont négatifs. Et si vous voulez des nouvelles, vous pouvez suivre la page Facebook de cet EHPAD Villanova.
Merci beaucoup, hein, Charlie Dupiot, pour ce reportage au cœur de ce centre d'accueil à Corba, près de Lyon. Reportage réalisé par Jérémy Besset. Et on va retrouver notre invité tout de suite. Deuxième partie de Priorité Santé, prendre en charge les personnes âgées en période de pandémie. Docteur Frédéric Béard, nutritionniste, gériatre, beaucoup d'émotions. Je voyais réagir pendant la diffusion de ce reportage signé Charlie Dupiot. C'est vrai que pour tout le monde, hein, cette période du printemps, on est en train de le revivre, mais ce printemps a été très particulier. Encore plus certainement quand on travaille avec des personnes âgées, on le disait tout à l'heure, population vulnérable parmi les vulnérables. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu de nouvelles mesures spécifiques dans votre établissement ou ça n'a jamais cessé depuis le printemps?
Alors, ça n'a jamais cessé depuis le printemps. Il y a toujours port du masque, règles d'hygiène et mesures barrières, etc. On a repris progressivement à partir de fin mai, je crois, des visites pour les patients, mais à travers un plexiglas, c'est-à-dire avec une vraie distanciation. On a milité vraiment pour réouvrir un petit peu les visites en chambre, qui sont effectives depuis, je crois, un mois ou deux, mais sur rendez-vous, sur une courte période, avec toujours des respects de règles barrières extrêmement strictes, et un filtrage des familles pour qu'elles ne soient pas trop nombreuses dans l'unité pour essayer de limiter la circulation du virus.
Ils ne se rebellent pas, vos résidents, vos patients ?
Alors, les patients le comprennent plutôt bien. C'est les familles qui ont un petit peu plus de difficultés parce que, évidemment, c'est quand même un petit peu... c'est un petit peu liberticide, quoi, hein, quand même. Hein. C'est un petit peu difficile d'être privé de pouvoir voir son proche quand on veut et uniquement sur rendez-vous. Ça fait un petit peu administratif.
Alors, on change les règles, docteur Béard, hein, contraint et forcé. Cette aventure qu'on a entendue dans cette EHPAD de Corba, c'est quelque chose vraiment de très fort parce qu'ils ont vécu une parenthèse, on va pas dire une parenthèse enchantée parce qu'il y avait un petit peu le chaos à l'extérieur, mais quand même un moment à part, on sent en tout cas que ce qui a fait du mal pendant cette période, c'est que des fois on avait l'impression de perdre un peu son humanité. Là, à l'inverse, on a l'impression que cette humanité, elle a été exacerbée.
Je vais pas vous étonner en vous disant que je suis pas étonné de l'extraordinaire dévouement du personnel soignant, de son extraordinaire implication. Je crois que c'est absolument formidable ce qu'ils ont fait. Je suis pas infectiologue, mais je pense qu'effectivement, le confinement complet avec les soignants, c'est une très bonne mesure pour limiter la propagation. Et puis, ça prouve aussi que ce métier de soignant, que ce soit infirmier, aide-soignant, éventuellement médecin, etc., c'est un métier absolument extraordinaire, au contact de l'autre, avec du dévouement. Et puis, ça montre aussi une chose, moi, que j'aime bien, c'est que finalement, toute cette humanité, toute cette proximité, ça se résume pas à un plan d'accueil, un plan de soins personnels ou des cases à cocher, mais que c'est une vie en communauté.
Et ce qu'on voit aussi, c'est que justement par ce type de décision extrême, il faut bien le reconnaître, on a évité d'arrêter tout ce qui est mauvais pour la santé des personnes âgées. Je pense en particulier au temps de vivre ensemble, les repas, les moments d'animation, également par exemple la mobilité, puisqu'il y a des personnes pour qui c'est absolument indispensable de faire ne serait-ce que quelques pas par jour, qui ne pouvaient plus aller en promenade, là c'était toujours possible.
Mais ça prouve une chose, c'est que la mixité des générations peut produire quelque chose de formidable, c'est-à-dire que il faut effectivement essayer de réintégrer les personnes âgées dans la société, de les faire participer, de les faire vivre, ou si ils ne peuvent pas y aller, c'est à nous d'y aller et c'est à nous de leur faire participer à la vie sociale démocratique.
Est-ce que, avec le recul, vous pensez que cette période de crise, on n'en est pas sorti, bien sûr, on l'a bien compris, en tout cas, ça a changé la donne en matière de prise en charge des personnes âgées? En tout cas, on a vu ce qui se passait dans certains EHPAD, on va dire là pour le pire, il y a eu des très fortes mortalités, on a vu qu'il y avait parfois une logique comptable qui l'emportait sur la logique du soin. Est-ce que vous pensez que c'est une parenthèse ou que c'est quelque chose qui va déboucher sur des changements en profondeur ?
Je suis malheureusement pas très optimiste. J'ai pas forcément l'impression de voir énormément d'avancées. Je pense que une chose évidente, c'est qu'il faudrait plus de personnel au chevet du patient dans toutes les structures et dans toutes les catégories de personnel.
C'est ce qu'on entendait d'ailleurs dans le reportage, cette notion du temps, de ne plus compter son temps, ça change tout.
Mais on a besoin d'énormément de temps, on a un intérêt du temps long en gériatrie, puisque les personnes âgées mettent un petit peu plus de temps pour tout faire et pour se remettre et pour... Et on a besoin de beaucoup plus de temps, ça veut dire aussi un petit peu besoin de plus de personnel. J'ai pas l'impression, malheureusement, qu'on soit vraiment dans cette logique-là.
Et au niveau de l'espace, est-ce que vous pensez qu'il faut justement reconsidérer les espaces de vie des personnes âgées, dans le cas justement où il y a un nouveau virus, une nouvelle infection qui se profile, où il faut rester dans la normalité avec une capacité justement à réagir, mais pas tout bouleverser. Je parle par exemple des lieux de vie communs. On ne va pas se mettre à faire manger toutes les personnes dans leur chambre. Ce serait quelque chose à terme de risqué, de dangereux pour la santé.
C'est pourtant ce qui s'est passé. Hein. C'est les recommandations qu'on a eues. C'était de fermer les salles à manger et de faire manger les patients seulement dans leur chambre.
Est-ce que pour vous c'était raisonné, raisonnable ?
On s'est rendu compte que c'était plutôt une mauvaise idée parce que les résidents restant dans leur chambre, ne sortant plus, ne s'habillant plus, ne voyant plus personne, sont commencés à aller beaucoup moins bien.
Et vous êtes nutritionniste, dénutrition à la clé aussi ?
Oui, évidemment, dénutrition, des gens qui ne mangent plus, qui ont perdu le goût, l'odorat, qui sont fatigués, qui ont plus ce côté social du repas. Enfin, moi j'ai plein de patients qui commencent juste maintenant à commencer à se remettre un tout petit peu, à remanger et encore. Enfin, ça a été assez long et ça a été assez catastrophique. Les lieux de vie communs, les salles à manger communes, éventuellement ouvrir ces salles à manger avec des populations un petit peu plus jeunes, les rencontres intergénérationnelles, il y a des expérimentations entre crèches et EHPAD dans un lieu commun. Tout ça, c'est des choses qui seraient extraordinairement intéressantes à mettre en place, évidemment.
J'imagine que vous n'avez pas besoin d'être convaincu en la matière, docteur Frédéric Béard, mais est-ce que ça a encore renforcé vos convictions sur le lien social, l'interaction sociale et ce qui se joue en matière de santé? Si on est privé de ce lien, on meurt.
Ben en fait, l'homme est vraiment un individu social. On l'a bien vu à la fin du confinement. Qu'est-ce qu'ont fait les gens dès la fin du confinement? Ils se sont rués sur les bars, les restaurants. Ils se sont retrouvés ensemble. Le confinement, ça a été justement des barrières à ce lien social. Et l'homme étant éminemment social, et ben s'il n'a pas cette sociabilité-là, s'il n'est pas avec ses semblables, il y a forcément un intérêt moindre, il y a des gens qui vont beaucoup moins bien, il y a des dépressions, il y a des gens qui... Alors j'aime pas parler de syndrome de glissement, je pense qu'il y a toujours des causes importantes à ça, mais il y a des gens qui effectivement vont beaucoup moins bien.
Et justement, on n'est pas dans l'après, on le comprend bien. Pour vous, c'est quoi le temps aujourd'hui? On n'est pas dans l'après parce qu'on va peut-être se préparer pour le demain déjà, parce que le nombre de cas augmente avec la mortalité, on va le dire, en région parisienne, dans certaines régions, qui augmentent jour après jour, notamment aussi dans la région marseillaise. Est-ce qu'il faut qu'on s'arrête malgré tout, prendre le temps d'en tirer les conséquences, monter des commissions d'enquête, des comités de réflexion? Pour vous, c'est important ou c'est superflu?
C'est très important, mais pendant toute cette période, beaucoup de sociétés savantes ont donné beaucoup de recommandations, on a tiré beaucoup d'expériences, on sait à peu près maintenant ce qu'il faut pas faire. Je suis pas sûr qu'on sache exactement quoi faire, mais en tout cas, je sais ce qu'il faut pas faire. Confiner des patients en chambre, c'est une des choses les plus terribles, et je pense que c'était pas forcément ce qu'il y avait à faire. De déménager des patients pour les mettre dans des secteurs privilégiés, ça a été énormément de déménagements pour des patients qui sont pas forcément très orienté, c'est toujours très délétère.
Justement, cette notion de stabilité, c'est essentiel pour des personnes vulnérables.
Oui, il faut absolument garder des repères ou en recréer ou insister sur ce qui existe. Essayer de pas trop déménager les patients dans les différents secteurs. Essayer de garder des habitudes. Le repas à midi et le dîner à 19h, c'est des moments conviviaux qu'il faut absolument conserver parce que c'est des repères pendant la journée. Et puis moi, je veux absolument tirer mon chapeau à toutes les équipes soignantes qui ont fait et qui font au jour le jour, même si c'est moins médiatisé, un boulot absolument extraordinaire.
On a entendu là tout à l'heure, vraiment, c'est le temps des repas, le temps de la toilette, le temps de l'échange.
On demande tellement de choses au personnel soignant, on leur demande tellement de repérer les moindres signes d'escarre, de dénutrition, de diminution d'autonomie, penser aux lunettes, aux dentiers, aux appareils auditifs, etc. Et je trouve qu'ils sont pas suffisamment bien considérés.
Est-ce que ça a changé la donne, justement, dans le regard que vous aviez sur vos équipes? J'imagine qu'avant, déjà, vous considériez les personnes qui travaillent avec vous, mais est-ce que ça a changé des choses? Est-ce qu'on a compris qu'il y avait peut-être encore plus d'indispensables sur ces rouages que certains jugeaient, finalement, avec une forme de négligence?
Moi, ça ne m'a que confirmé dans ce que je pensais, parce que je savais déjà... Alors, pardon, je parle juste de mon équipe là, mais je savais déjà que j'avais une formidable équipe. Ça ne fait que confirmer. Je me rends compte qu'il n'y a pas que mon équipe qui est formidable, mais qu'il y a énormément de soignants qui sont absolument formidables, qui n'essayent pas de tirer la couverture à eux, qui font leur travail de façon extrêmement professionnelle et humaine tous les jours. Est-ce que ça a changé le regard de la société? Oui. Est-ce que ça va être un changement durable? J'ose espérer.
Est-ce que vous avez noté, justement, dans la prise en charge de sous ces bouleversements, ces facteurs de déstabilisation, qu'il y avait, tout à l'heure, vous parliez de comorbidité, on comprend bien qu'avec des personnes qui avancent dans un grand âge, il y a de nombreuses maladies qui peuvent se surajouter, mais que pour certaines pathologies, il y avait des risques bien ciblés, je pense, par exemple, aux différents types de démence, maladies type Alzheimer. Est-ce qu'il y a eu une spécificité, justement, de perte des repères?
Alors oui, effectivement, très clairement, il a fallu faire une prise en charge un petit peu adaptée pour des patients qui avaient des gros troubles de mémoire, notamment pendant le confinement. C'est vrai qu'on essaye toujours de rassurer le patient et de lui dire des choses sans trahir la vérité. Donc par exemple, vous pouvez dire, bah, vous avez envie de voir votre proche, il est passé il n'y a pas longtemps, et puis il va revenir bientôt. Ça, c'est des choses qui sont suffisamment vagues pour être tout à fait vraies, pour rassurer le patient, sans lui mentir. En période de confinement, vous faites comment? Enfin, je veux dire, vous pouvez pas lui dire, bah voilà, il y a interdiction des visites, vous les reverrez plus avant je ne sais pas combien de temps. En plus, les patients qui ont des problèmes de mémoire ne savent plus trop bien se repérer dans le temps. Hier, ça n'existe plus. Demain, ça n'existe plus non plus. Donc, il faut profiter de l'instant présent. Profiter de l'instant présent où il y a énormément d'anxiété parmi les équipes, évidemment, et puis tellement d'incertitudes pour l'avenir. Et je crois me rappeler qu'on ne savait pas quand le confinement allait se terminer.
On était semaine après semaine.
Voilà, c'est très difficile de pouvoir rassurer et de pouvoir donner un cap et de pouvoir rassurer des patients qui étaient en plus très anxieux. Ça a été difficile, surtout qu'ils déambulaient, il y a des troubles du comportement qui se sont majorés, etc. Donc ça a été un petit peu compliqué, oui.
On a beaucoup entendu le terme de vulnérabilité associé justement au grand âge. Est-ce que vous avez l'impression qu'à force de vouloir protéger à tout prix, limiter les risques au maximum, on a perdu, tout à l'heure en écoutant le reportage, on parlait de cette humanité, tout résumé à des personnes fragiles, parce que vous, quand vous parlez de ces personnes, vos pensionnaires, vos patients, c'est pas des personnes tremblotantes et désorientées. Il y a des vrais moments de vie. Tout à l'heure, d'ailleurs, on entendait une patiente, elle garde bien l'esprit, elles sont toniques, elles sont, voire même, moi j'aime bien, un peu coquines.
Oh ouais, c'est absolument extraordinaire de pouvoir partager des vrais moments de vie. Moi, je me souviens encore d'avoir partagé une boisson pétillante, pour le nouvel an avec une patiente. Bah, c'était juste parce que c'était ce moment-là et c'était ce jour-là. Je suis pas sûr qu'elle s'en souvienne après. Et puis, c'est pas bien méchant, mais au moment où on l'a partagé, ça a été un moment. J'ai ramené toute l'équipe pour retrinquer avec elle. Ça a été un moment formidable. Voilà, c'est des petits moments comme ça qui sont absolument importants. Est-ce qu'il faut absolument appeler ça des personnes vulnérables? Oui, parce que je pense que il faut effectivement prioriser des actions de soins et avoir une vraie philosophie là-dessus et une vraie volonté d'action. Maintenant, ça reste malgré tout des personnes qui sont dotées d'un affectif extraordinaire et d'une humanité, d'une générosité et d'un dialogue qu'il faut absolument maintenir.
Et ça ferait l'objet d'une autre émission, mais il y a aussi l'entourage à protéger parce qu'ils ont aussi vécu des choses très très difficiles parfois pendant cette période.
Mais alors on oublie trop souvent les patients qui étaient dépendants à la maison, qui ont été confinés avec leurs proches aidants, les aidants à domicile. Ça a été, je pense, une période extraordinairement difficile où ils ne pouvaient pas se reposer sur des professionnels, des intervenants professionnels à domicile.
Bah, la semaine prochaine, c'est la journée des aidants. On va justement y consacrer. On parlera bien évidemment de ce contexte très particulier qu'on a vécu et qu'on continue de vivre en période de crise sanitaire. On vous remercie infiniment, docteur Frédéric Béard, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes gériatre nutritionniste, chef de service à l'hôpital du Puy-Train de Dravel, hôpital de l'APHP. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise cette émission. Ophélie Lassène, Juliette Brault, Didier Bleu. Demain, on va parler des revues scientifiques. À quoi servent-elles? Comment la crise du coronavirus les a surexposées et peut-être aussi d'une certaine manière fragilisées? À demain. D'ici là, portez-vous bien et surtout, lavez-vous bien les mains.
C'est Priorité Santé avec les sociétés Suno Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Suno Assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.